récupérer ma carcasse dans une piole de cette tôle en ruine. Où s'arnifle la vieille radasse qui met du gasoil dans son chine. Si un jour je retrouve la mémoire et deux, trois bières pour ma moquette, je balancerai à la série noire un truc à faire chialer à bête. Doucement les filles, faut pas flipper. La biloche est faite pour saigner. Biocide, sparagé. Doucement les filles, faut pas flipper. La biloche est faite pour saigner.
Radio Libertaire 89.4.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou. Du bar, car encore Igor il dort, mais près de son oreille, merveille un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté, tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté, tic-tac, tic-tac, tes cocus qu'attends-tu, quitte-toi tes cocus, tac-tac-tac, quitté et quitter ton quartier, tacati t'a quitté, ta tactique et tes tocs, ta tactique et tes tocs, tacati t'a quitté, ôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. T'attends t'attaquer, contre-attaque au côté, quatre écus tout compté, et quitte ton quartier, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catita qui n'est un coquère, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, d'un compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets, de quais, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh, matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
Si le bon Dieu l'avait voulu, l'enturlurait.
La main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton, la main qui nivelle la haie, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil, la main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment, la main qui tend, la main qui grasse, la main qui coule, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient la bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat, la main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier, la main qui course le clavier, la main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne, la main qui creuse dans la mine, la main qui se blesse aux machines, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir, les mains sont faites pour s'attendre, les mains sont faites pour s'unir.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 à l'écoute de l'émission et pourtant elle existe, cette littérature, émission consacrée à la littérature qui vient d'en bas, ouvrière, paysanne et sociale, et émission animée par trois personnes. Aujourd'hui nous n'avons pas d'invité, membre du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, à savoir Frédéric, qui est aujourd'hui, comme d'habitude, depuis plus d'un an, à la technique, et Michel, présente aussi pratiquement depuis le début de cette émission. Alors, donc, sur Radio Libertaire 89.4, radio sans Dieu ni maître, ni nationalité. Alors, au sommaire aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'invité, et nous allons consacrer l'émission à un certain nombre d'informations, de réflexions collectivement. Et dans une seconde partie, nous aurons une intervention plus longue de Michel qui sera consacrée aux femmes dans la résistance en 1940-44. Alors, parmi les points que nous allons aborder, je vous donne un petit sommaire réduit, hein. Nous reviendrons sur le colloque que nous avons organisé au mois de juin autour du centenaire de la naissance de Michel Dragon. Nous parlerons du numéro 9 de Fragments qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, en particulier à Publico. Nous aborderons le numéro 10 qui est prévu pour la fin de l'année, au début de l'année 2025. Et également un point sur le numéro 11, puisque nous avons un plan de travail qui s'étale sur pratiquement un an d'activité en ce qui concerne la revue. Un point également sera fait sur les éditions, puisque je rappelle le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, le CLOPS, a créé un secteur édition, et nous avons déjà deux ouvrages qui ont été édités, hein, le premier Ligne de front de François Lebert, le deuxième Nous sommes 17 sous une lune très petite de Michel Dragon, et nous parlerons du troisième qui devrait sortir fin octobre, début novembre sans doute. Ensuite, quelques rendez-vous dans des salons proches ou un peu plus lointains, et ensuite le point sur l'exposition concernant les femmes résistantes. Alors, au préalable, je voudrais profiter de cette émission de reprise parce que on n'a pas eu d'émission en juillet-août, même si en août, Frédéric a pu passer un certain nombre des interventions qui ont eu lieu pendant le colloque. Hein. Mmh. Donc, ça a assuré une présence malgré la période estivale. Et je voudrais quand même faire deux ou trois points sur des disparitions, parce qu'on a eu quand même un été parmi nos proches, un été assez meurtrier. Alors tout d'abord, une information que concernant Tessie Rome. Hein. Tessie Rome, c'était son nom de plume, son nom c'est Serge Morisset. Et pour ceux qui sont abonnés ou lecteurs ou lectrices de Fragments, bon, ils ont pu apprécier à différents moments ces textes, avec toujours, je dirais, une partie avec un second degré, beaucoup d'humour et une manipulation des mots comme un artisan malaxe la matière, enfin vraiment des textes à fleur de mots MAUX, hein, bon, avec toute l'expérience qu'avait Serge, hein, qui a qui est décédé donc le 4 juillet, à l'âge de 69 ans, des suites d'une longue maladie, comme on dit. Et je tenais à lui rendre hommage ici, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été parmi les fondateurs du Clubs en 2020. Et puis c'est aussi quelqu'un avec qui, personnellement, j'ai partagé 30 ans de militantisme à la CNT. Hein, et ensuite, nous avions rejoint ensemble la CNT Solidarité Ouvrière. Voilà, donc on reviendra dans la revue sur les activités diverses de Serge, hein, qui avait eu un parcours assez intéressant. Il avait été berger dans les Pyrénées, il avait été réfractaire à l'armée, il avait été photographe, et puis facteur à la poste. Hein. Et toutes ces approches témoignent un peu de cette vie assez riche en termes d'expérience. Voilà, et notamment aussi, ce que j'ai oublié de noter, c'est il faisait aussi un travail de sculpture, et il travaillait, il se définissait pas comme sculpteur, mais comme gratouilleux ou gratouilleur de la pierre de tuffeau, et il faisait vraiment des réalisations très intéressantes qui ont beaucoup circulé dans son village et autour de son village en Indre-et-Loire. Voilà, donc ça c'était le premier point. Une autre disparition que les amateurs et amatrices de littérature prolétarienne connaissent au moins de nom, ou en tout cas ils connaissent ce à quoi il avait contribué, c'est Jean-Paul Morel, qui est décédé lui aussi cet été. Et Jean-Paul Morel faisait partie en 1988 des... il y avait beaucoup d'abonnés, mais il y avait un noyau qui avait fondé le centre... culturel de littérature prolétarienne Henri Poulaille à Cachan, hein, en 1988. Il y avait Jérôme Redvan qui nous avait accompagnés au début de notre activité, qui lui aussi est décédé il y a 2 ans. Il y avait Jean-Paul Morel et Patrick Ramsey. Voilà, et donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir, mais sur en plus on avait un projet de travail sur une revue un peu de la naissance de ce foyer cachant par ceux qui l'avaient initié, et il y avait des choses à dire, et aussi par rapport à ce que c'est la poursuite que c'est devenu aujourd'hui, etc., et les problèmes qu'il peut y avoir autour. Donc voilà pour Jean-Paul Morel. Et dernier point, évidemment, bon, je pense que ça a déjà été abordé sur cette antenne, la disparition de Claire Ozias, qu'on connaissait et qui nous a d'ailleurs envoyé un texte quelques temps avant qui paraîtra dans un futur numéro consacré notamment à la question de littérature, d'écriture au milieu des gens du voyage. Voilà, qui était quelqu'un qu'on appréciait et avec laquelle on aimait se retrouver et militer. Voilà, donc ça c'était en guise d'introduction un peu, disons, négative, mais bon, voilà, c'est l'histoire. Alors, maintenant, nous allons revenir sur le colloque du mois de juin. Hein, le colloque du mois de juin, je rappelle, c'était, parce qu'on n'a pas eu de fête d'émission en direct depuis, vraiment, pour faire le point. Je rappelle que c'était un projet qui nous a occupé pendant un an, pratiquement. Hein. Pratiquement la seule initiative en hommage à Michel Ragon sur Paris, hein, à l'occasion du centenaire de sa naissance. On avait préparé ça collectivement et de manière autogérée. Alors, il y avait quelque chose d'un peu, un peu aventureux, on va dire, de se lancer dans cette activité qui impliquait déjà l'occupation et la gestion de 4 salles à la GECA, oui. Donc un investissement financier significatif, hein, on est transparent, hein, plus de 3 500 euros, oui. Et ensuite faire converger et fédérer des approches plurielles autour de l'itinéraire de cet autodidacte qui était Michel Ragon, oui. Donc pour lui rendre hommage à la fois sur ses écrits concernant par exemple le cycle vendéen, ses racines vendéennes, mais aussi autodidacte, il avait abordé la question de l'art, de l'urbanisme, un engagement anarchiste, hein, il a souvent occupé à la fois les colonnes du Monde Libertaire, mais aussi les colonnes à une époque d'une revue qui s'appelait La Rue, qui était une revue d'un groupe qui était dans le 18e, j'ai oublié son nom, désolé, mais où Michel avait pas mal fourni de textes, à la fois sur l'art, sur le point de vue anarchiste par rapport à l'urbanisme, par exemple, donc numéro 11, dont j'ai souvenir. Et voilà, donc réussir, c'est, ça voulait dire avoir un public, c'était la première chose, et puis équilibrer notre initiative. Et je crois, bon, je veux juste introduire, hein, la qualité des interventions ont été quand même saluées. Je rappelle, hein, il y avait Sarah Gmatari pour l'aspect universitaire, maîtresse de conférences en littérature des 19e et 20e siècles à Lyon. Claire Robert, docteur en lettres et journaliste territorial, qui elle a abordé la question du cycle vendéen, le sillon des Daujagnes. On a eu des sketchs aussi, hein, la mise en sketch par Abby Patrix, qui est un conteur, donc à partir d'un des premiers livres de Michel Ragon, Drogue de métier. Sophie Mokhtari, qui est agrégée de lettres, qui a travaillé sur Michel Ragon et le monde paysan. Une autre universitaire a abordé les mouchoirs rouges de Cholet avec Martine Minarovitz, c'est-à-dire la question des interventions qui étaient couplées avec des lectures. Michel Ragon et mai 68, que j'ai abordé sur la première journée. Et ensuite, nous avons eu une équipe, Michel Bordignon, Sylviane Crouzet, Giuseppe Locatelli, qui ont abordé Michel Ragon, historien de l'art, d'après son livre, et vraiment Gustave Courbet, peintre de la liberté, hein, une intervention avec des projections de différentes peintures, qui a été un moment fort, hein, il faut le dire. Une très belle intervention aussi, de toute façon, il y a eu des bons échos, hein, pour chaque intervention, je pense, oui. De Harry Bellet, hein, journaliste et écrivain, qui s'est interrogé sur la fonction de l'art et par rapport à Michel Ragon. Oui. Un comédien, Christophe Carassou, qui a fait une lecture théâtralisée d'extrait d'un livre que les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire connaissent bien, La mémoire des vaincus. Et enfin, aussi Sylvain Boulouk, enseignant et historien, qui a un peu travaillé sur la correspondance de Michel Ragon avec les anarchistes. Bon, je fais un peu le tour pour rappeler quand même la richesse qu'il y avait. Un travail fait aussi par Patrick Verdun, hein, bibliographe, qui vient de Vendée, hein, qui a fait les réalités virtuelles des rencontres amicales de Michel Ragon, et qui a fait vraiment un travail de recensement qu'il faut saluer, fantastique, de tous les écrits dans tous les domaines de Michel Ragon. Hein, et c'est pas simplement les romans. Hein, je veux dire, c'est vraiment une somme de connaissances qui est utile. Des lectures aussi, quoi, par Flo, hein, sur Un si bel espoir, des extraits. Et le point aussi de l'événement, on est revenu sur le livre de Thierry Maricourt, hein, sur Michel Ragon jeune, La rage de lire, hein, c'est un livre aux éditions d'Échappée, et une intervention de André Derval, qui a publié une bibliographie de Michel Ragon, hein, aux éditions Albin Michel, et qui est intervenu sur Michel Ragon et l'anarchisme de l'unique. Et notre intervention, nos échanges des deux jours se sont clôturés par une intervention de Didier Denynx, hein, qui était intitulée « Michel Ragon et les chemins de traverse de la littérature ». Alors, est-ce qu'on peut, moi, je vous donne la parole, hein, pour votre ressenti. Moi, ce que je peux dire du point de vue de la participation, il y a eu à peu près 200 personnes sur les deux jours, 190-200, et des gens vraiment intéressés qui ont participé. Il y avait aussi des films de projetés. Bon, il n'y a peut-être pas eu toujours assez de monde à cet endroit-là, parce qu'on ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Mais vraiment une ambiance très conviviale, chaleureuse. On avait aussi organisé les repas. Donc la prise des repas en commun, ça a permis des échanges, de poursuivre un peu les échanges quand il y a quelqu'un sur une tribune et donne dans la salle qui écoute. Et sur le plan financier, on a tenu... notre pari d'équilibrer et de ne pas avoir de déficit. Et à ce niveau-là, je remercie ici tous ceux et celles qui nous ont aidés, qui ont apporté. On avait une cagnotte en ligne. Et il y a vraiment de différents ruisseaux qui ont permis d'assumer, et j'insiste, totalement de manière autogérée, que ce soit la gestion des salles et que ce soit les repas et toute l'organisation, l'animation de la tribune. Tout a été autogéré de A à Z. Et je pense que c'est quelque chose d'important et qui se distingue des hommages institutionnels où il y a des gens payés pour accrocher tel ou tel. Je dis pas que c'est inutile, hein, mais c'est pas la même mobilisation des gens, des gens d'en bas que nous sommes, quoi. Voilà, Michel, si tu veux dire quelque chose.
Oui. Bon, d'accord. Oui, oui. Donc, je partage complètement ton avis. Il y avait effectivement beaucoup de monde et j'en étais d'ailleurs assez épatée. J'ai trouvé que vraiment l'information avait bien circulé. Des gens très intéressés, effectivement. Je pense qu'on peut peut-être dire aussi qu'il y avait la femme de Michel Ragon,
oui, tout à fait.
En fait, hein, voilà, qui aussi a pu apporter des éclaircissements plus personnels, en fait, hein, sur Michel Ragon à certains moments, sur certaines interventions, qui avait l'air très heureuse de ce à quoi elle assistait, ce qui était quand même assez agréable pour nous. Et puis sinon, en termes d'autogestion, ça, j'avoue que c'était quand même... il fallait gérer, effectivement, toutes les salles, il fallait gérer le public, il fallait gérer les repas. Ça a été fait, comment dire, de façon très, très conviviale, très correcte, très rapide, à tel point que le dimanche, hein, c'est ça, au moment de la clôture, oui, il y a une dame qui est venue et qui disait, mais c'est quand même incroyable, tout se range, tout se passe très très bien, mais j'ai jamais vu ça, ce qui m'a permis de lui dire que en fait c'était ça l'autogestion, en fait, voilà, et que c'était une grande leçon d'autogestion, que quand on s'y met tous pour un but commun, et ben en général on peut faire des très belles choses, pas que des beaux événements, mais aussi faire beaucoup plus. Et cette dame était vraiment épatée, en fait, de la façon dont elle nous voyait agir, et j'ai trouvé que c'était certainement, pour moi, un des plus beaux compliments qu'elle pouvait nous faire.
Frédéric ?
Ben, écoutez, je ne peux qu'aller dans votre sens aussi. Alors, pour rappel aussi, hein, Radio Libertaire était présente et vous pouvez retrouver sur le site de Radio Libertaire l'intégralité des interventions qu'il y avait, hein, pour cette... Vous allez sur le site Radio Libertaire, sur le portail, vous trouvez événements spéciaux. Vous reportez sur, je ne me rappelle plus, c'était le 6 et le 7 juin, ou je ne me rappelle plus. Le 7 et le 8.
8 et 9.
Le 8 et 9, ah, voilà. C'est déjà un peu loin pour moi, j'ai une petite mémoire. Donc en effet, vous retrouverez l'ensemble de, comment je veux dire, des interventions. Cela dit, nous avions fait, nous, une petite sélection, c'était le mois de juillet, au mois d'août. Hein. Vous pouvez vous reporter à une de ces deux émissions, où en effet, nous avions fait une petite sélection d'intervention où bien sûr on reprenait pas tout. Ce que j'ai trouvé aussi de bien, c'était très fluide, il n'y avait pas de temps mort, c'était très bien organisé, une belle table de presse aussi, la restauration formidable, enfin c'est pareil, je n'ai entendu que du bien, oui, et apparemment moi qui n'aime pas vraiment les trucs un peu faits avec quatre bouts de ficelle et puis que ça là ça avait un beau visage quand même, hein, je veux pas dire tu vois ce que je veux dire, un autre mot, ça avait quand même une bonne tenue, et en effet moi j'avais un petit peu de mal à partir le dimanche.
Oui,
voilà. Je repasse la parole, mais, à qui le veut.
Tu as raison d'insister sur Radio Libertaire. Je crois qu'il faut saluer le travail de Serge et Monique, qui ont été présents du début à la fin et qui ont cadré aussi à leur façon la nécessité pour permettre un enregistrement de qualité, la façon des débats. Souligner qu'il y a des gens qui sont venus de province aussi, de pas mal d'endroits. Le groupe Kropotkin de l'Aisne, qui était présent et qui a assuré un travail de suivi un peu de l'ensemble de la logistique, on va dire. Et puis la tenue de presse pour Publico. Et il y avait aussi la présence des éditions de L'Échappée. Donc c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu surpris, c'est que malgré la distance, il y a des gens qui ont fait des déplacements de Roubaix ou du Sud. Et ça a permis un petit aspect sur le plan de l'Hexagone, quoi. Voilà, je pense qu'on peut faire peut-être une première pause musicale. Je vais vous indiquer, c'est un titre que nous allons écouter, c'est Claude Antonini. Ça s'appelle « Ces choses-là ». C'est un titre de Gaston Coutet, qui est extrait du CD Gaston Coutet, volume 2, collection Poètes et Chansons. Voilà.
Lorsque t'entendais parler au village, brave homme à la tête dure comme ton sabot, de l'action directe et du sabotage, tu restes vitré comme un escargot, calme paysan des coteaux tranquilles, au fond de ta jugeote, tu pensais comme ça, ces deux inventions des...
Un petit problème avec le CD-ROM, désolé, il saute un peu, donc nous essaierons de refaire une plage musicale un petit peu plus tard, désolé pour cet impératif technique. Voilà, je repasse le micro, Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, retour du micro sur Raphaël.
C'est un mystère de la technique. Chez moi, il passait très bien, donc ça doit être dans les transports de train. C'est peut-être pris un peu la chaleur aujourd'hui. Voilà, donc nous allons poursuivre après avoir fait ce tour d'horizon. On va aborder un peu le numéro suivant de Fragment, une revue qui en est à son 10e numéro depuis 2020, qui fait en général autour de 120 pages, je le rappelle. Qu'on peut également se procurer en librairie, bien entendu, mais auquel on peut aussi s'abonner, et qui nous permet d'avoir un peu des échos, des correspondants, des échanges sur une bonne partie du territoire, plus en Bretagne, les Hauts-de-France, au niveau des abonnés, et aussi un peu dans le Sud. Voilà. Donc, et aussi, ça permet, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de travailler avec des échanges à la fois avec les adhérents du club, du Cercle culturel et littérature ouvrière, paysanne et sociale. C'est-à-dire qu'on a en dehors de la revue une feuille de liaison interne qui nous permet de distiller un certain nombre d'informations, de diffuser un certain nombre de livres, y compris des occasions. Et ça permet aussi un contact, parce qu'une revue qui se limite à être publiée et diffusée, c'est un peu réducteur. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Et j'ai noté d'ailleurs, je ne citerai pas de titre, mais dans différents domaines, que souvent des revues commençaient avec un contact privilégié avec le lectorat, et que, notamment dans une rubrique qui s'appelle le courrier des lecteurs, et qu'au fil du temps, où la revue s'installait, quelque part, entre guillemets, c'était une partie qui avait tendance à disparaître. Mmh. C'est-à-dire que cet espace qui est plus ou moins grand, nous il n'y en a pas à chaque fois, mais c'est quand même un moment vraiment où des choses émergent indépendamment du comité de rédaction, etc. Et ça vivifie un peu comme dans un organisme, ça fait du sang à l'intérieur du corps qu'est la revue. Alors voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est-à-dire donc on a cette revue et aussi cette feuille d'information pour nos abonnés et en interne aussi, puisqu'on peut adhérer à notre association. Il suffit de nous écrire au CLOPS 75 rue du Docteur Roux, 95 130 Franconville, ou bien en envoyant à l'émission, et pourtant elle existe cette littérature, au 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Hein, on a la possibilité, le montant c'est 15 euros par an, hein, mais voilà. Et aujourd'hui on est une cinquantaine d'adhérents. Voilà. Je parle des adhérents, hein, pas des abonnés. Enfin, souvent les adhérents sont aussi abonnés. Voilà, donc ça c'était le petit point interne. Donc pour le on a abordé ce colloque et naturellement le numéro 10 qui va paraître de fragments en fin d'année ou début d'année prochaine sera consacré aux actes du colloque, mais aussi enrichi. C'est-à-dire qu'on aura les interventions qui ont eu lieu pendant les deux jours à la GK. Mais on aura également des contributions directes de personnes qui, pour X raisons, ne pouvaient pas être présentes ou qui ne pouvaient pas rentrer dans le timing des deux jours, hein, puisque c'était quand même assez compact. Hein. Mmh. Donc, et d'ailleurs, il faut aussi réfléchir à ça. Des fois, on avait un temps qui était limité pour l'échange et ça pouvait créer quelques crispations à un moment donné, parce que les gens ont des fois envie de prolonger l'intervention plus que le permet l'horaire défini. Et bon, ça aussi, c'est des choses à mettre dans le bilan, à réfléchir pour peut-être d'autres choses plus tard. On verra en fonction de nos réunions internes s'il y a d'autres initiatives. Mais voilà, ça c'était donc dans la foulée. On a d'autres contributions qui vont aborder d'autres aspects de l'activité de Michel Ragon sur le plan littéraire ou autre. Donc voilà, ça le rendez-vous, c'est en fin d'année 2024, début 2025. Un autre point que je vais signaler, c'est le numéro suivant, parce que on va consacrer, et donc on appelle aussi à des contributions, même si on a déjà de quoi faire, je dirais. C'est un dossier qui est consacré à Panaïs Tistrati. Alors, pourquoi Panaïs Tistrati? Déjà, je fais une parenthèse. Pour Henri Poulaille, dans ses revues, on y reviendra, je pense, dans la revue plus tard, la littérature prolétarienne, c'est pas un phénomène national, franco-français. Ça veut rien dire. Chez Poulaille, et dans ses revues en témoigne, c'est une juxtaposition de textes qui viennent du monde entier. Je pense à Joey Corey qui est mineur en Écosse, Upton Sinclair qui est des États-Unis. Enfin, il y a plein des pays de l'Est aussi. Il n'y a pas Panaïs Tistrati. Enfin, il faut que je retravaille plus, hein, mais je crois pas qu'il y ait. Il y a des infos sur Panaïs Tistrati. Je suis pas certain qu'il y ait un texte de lui dans une des 4 ou 5 revues de Poulaille. Hein, que ce soit Prolétariat, Le Nouvel Âge au début, Prolétariat, à contre-courant ou la revue Maintenant à la fin. Mais Panaïs Tistrati, c'est l'exemple typique, hein, il est roumain. Il va écrire c'est un vagabond. Hein, c'est un vagabond qui va faire, c'est un autodidacte. Il va faire tous les métiers. Il va être élevé seul par sa mère, hein, puisque son père était grec. Et c'est un contrebandier et il sera tué quelques mois après que sa naissance. Donc sa mère va assumer seule, et c'est un choix qu'elle fait d'ailleurs aussi de l'élever et de travailler pour lui. C'est son but dans la vie, y compris pas question de se remarier ou des choses comme ça. Et lui va devenir vagabond et il va faire tous les métiers, d'abord en Roumanie, et puis ensuite il va voyager. Bon, il y a plein de... Et évidemment, toute cette expérience va se retrouver dans ses écrits. Et je pense que la plupart le savent, il va ensuite arriver en France. Il est un peu au bout du rouleau. Il fait une tentative de suicide à Nice. Il se tranche la gorge. Il a écrit une lettre à Romain Rolland qui n'était pas parvenu à son destinataire, hein, et qu'on va trouver. Il va être sauvé par un passant. Et la lettre va arriver à Romain Rolland qui va l'encourager et il va écrire en français. C'est-à-dire que il faut bien se mettre aussi le cheminement de cet autodidacte qui va manier la langue française après avoir lu et plein d'ouvrages en français, etc. Et donc il y a une association, hein, des amis de Panaïs Tistrati avec laquelle nous sommes en contact, hein, et j'en parlerai tout à l'heure, qui sera d'ailleurs aussi au salon de la revue le 11, 12, 13 octobre. Mais on travaille, et bien sûr, il y aura une contribution de cette association depuis des années, hein, qui font un travail pour faire connaître Panaïs Istrati. Puis il y a aussi un travail qui est fait aux éditions de l'Échappée, hein, pour vraiment, c'est quelqu'un qui est le prototype d'une littérature prolétarienne sans frontières. Voilà, donc on a souhaité s'en faire l'écho, hein, à la mesure de nos moyens, et j'espère qu'on pourra inviter des personnes oui. sur cette antenne, hein, je pense à l'occasion ou un peu avant la sortie de ce numéro. Et donc, on appelle à des contributions. S'il y a des auditeurs, des auditrices de Radio Libertaire qui connaissent cet auteur, qui ont envie d'en parler ou parler simplement d'un ouvrage, hein, eh bien voilà, c'est important. Un autre aspect aussi, en dehors de ses écrits, ça va être ses premiers écrits sont salués en France. Il se définit comme militant communiste à un moment donné. Et il va être invité en 1927 à un voyage officiel pour les 10 ans de la Révolution d'octobre. Il va partir les yeux pleins d'étoiles sur le pays du RSS socialiste, et il va y revenir très désenchanté. Il va écrire un livre, hein, il y a aux éditions Reader, hein, ça s'appelle Vers l'autre flamme. Il y a deux autres textes, mais deux autres livres qui suivent, mais c'est pas lui qui les a écrits, c'est Victor Serge le second, et le troisième c'est Boris Souvarine. Et il va écrire ce Vers l'autre flamme qui est à l'image de ce que pourra faire Gide quelques années plus tard. Et là, il va être évidemment en proie à l'ostracisme, à la hargne des staliniens, et même de gens comme Henri Barbusse, hein. Ça va être l'ostracisme total, etc. Et bon, il a des problèmes de santé, il va retourner, il va être très solitaire, mais il gardera quand même toujours cet objectif d'un monde meilleur. Si à un moment il dit je m'engage plus pour aucun parti, pour rien, mais je crois quand même qu'il peut y avoir une amélioration des choses. Voilà, c'était pour compléter un peu l'approche. Donc si parmi vous, auditeurs, auditrices, eh bien les colonnes de fragments vous sont ouvertes. Hein, sachant que ça sera une parition pour juin 2025 à peu près. Hein. Donc on a un peu de temps pour nous retourner. Alors, un autre point sur les éditions. Les éditions, c'est un des objectifs que nous nous sommes donnés. Hein. Donc, le premier texte, Ligne de front, hein, on a reçu ici François Lebert, ouvrier de l'automobile, hein, qui a écrit ce premier texte, une réédition du livre de Michel Dragon ensuite. Et le troisième ouvrage est actuellement achevé, un travail de maquettage, hein, et il devrait paraître pour la fin du mois d'octobre. Et le titre, c'est d'hier à aujourd'hui, des agents des PTT prennent la plume, mémoire partagée, et c'est sur un siècle de d'écrit. Hein. C'est-à-dire que Poulaille, parce qu'on doit beaucoup de choses à Poulaille, hein, avait fait un numéro dans les années 32, 33, en juillet 33, sur des écrits de postiers de l'époque. C'est-à-dire, il y a par exemple Lucien Brunel. Lucien Brunel, c'est un facteur qui prend sa retraite en 1931. Donc, la pause dont il va nous parler, c'est celle des années avant 14 et après. Mmh. Et il a un texte qui s'appelle Tournée des traînes, qui est assez dense et qui est vraiment presque une enquête sociologique sur le... Il est dans le 16e, mais c'est très très marrant parce que on découvre un 16e pas du tout... Il y a une partie qui est à l'image de ce qu'on connaît, mais il y a aussi d'autres strates de gens qui vivent, une petite bourgeoisie et même des couches populaires. Mmh. Et c'est un texte qui est vraiment... Bon. Donc en fait c'est sur un siècle, hein, il y a d'autres textes, on a déjà parlé d'un, mais de Henriette Vallée qui a écrit le livre Madame 60 bis, hein, sur les conditions d'accouchement à l'Hôtel Dieu, bah, qui était téléphoniste, hein, et on a son témoignage de l'époque. On a André Savagnier, j'en oublie, hein, sur cette période-là, et à la fois sur le travail de la distribution, mais aussi des guichets. Hein, donc on a toute cette approche. Et un autre, il faut citer quand même, Charles Bontou-Morel, hein, qui a été syndicaliste dans la région de Lyon, qui a fait un travail très intéressant, puis un autodidacte aussi, et qui nous parle de ses premiers contacts dans le métier, mais dans ces, oui, dans ces années-là, quoi. Et on prolonge l'approche en poursuivant avec des auteurs plus contemporains, puisque... mais ça, il disait dans son introduction, Henri Poulaille à l'époque, il y a beaucoup de gens de lettres dans les PTT. Et c'est vrai que c'est un secteur où il y a des gens, il n'y a pas que dans ce secteur-là. Et donc, comme dans notre association, le CLOPS, on a aussi pas mal de PTT, en retraite ou en activité d'ailleurs, on a complété et on a essayé de faire aussi une approche qui soit sur les différents métiers des PTT.
Oui,
hein.
C'est ça.
Donc, la distribution, les guichets, le service des ambulants qui n'existe plus. Mmh. Et là, on a eu des très bons contacts avec une association de l'Oise qui fait un vrai travail de recensement des pratiques dans les ambulants. C'est un secteur qui était à part, donc on découvre ça, et aussi des télécommunications, hein, puisqu'on est un certain nombre à y avoir travaillé, et là aussi c'est intéressant d'avoir, voilà. Et tout ça encadré par une histoire postale évidemment réduite qu'on a écrite, en guise d'introduction, voilà. Donc ça c'est pour vous dire que cet ouvrage devrait sortir fin de...
Bientôt.
Bientôt, voilà. Donc,
fin d'année, et, c'est ça, tu allais dire.
Enfin, oui, voilà.
À peu près.
Il y a aussi un témoignage aussi d'un facteur suisse qui a écrit un livre qui s'appelle Une vie facteur, et aux éditions Hero Limite, et on a eu l'autorisation de reproduire une partie. Ce facteur, c'est Jean-Jacques Kissling. Donc, pour montrer aussi, c'est un texte qui est très intéressant, parce que, enfin, j'y reviendrai quand le bouquin sera sorti, mais c'est un texte qui est très intéressant, parce que en fait, il a une vocation universelle. C'est-à-dire la description de ce qui se passe. On peut qu'on soit dans la poste canadienne, au Brésil ou en France, c'est le même processus sous le capitalisme libéral. C'est exactement les mêmes. Et voilà, ça donne un peu cette dimension internationaliste. Un très beau texte aussi sur un gars qui signait Le Sanglier, qui a été révoqué deux fois, gréviste en 1904-1906, deux fois révoqué, amnistier, c'est Charles Vallée, hein, et qui a écrit des textes, mais aussi qui était sur les ambulants, vraiment mordant, sous forme de poème. Il raconte des conditions de travail, voilà, c'est des trucs assez forts. Et bon, je ne veux pas passer aussi les questions de témoignages de facteurs plus récents dans les centres de tri, des anecdotes assez... Il n'y a pas que des textes, il y a en même temps de l'humour dans ces textes, et des fois on rigole, bon voilà. La situation des fois aussi d'une personne qui est saisonnier l'été, voilà, j'arrête là, et je crois qu'on peut cette fois écouter, faire une pause musicale, sinon on va avoir soif, et en écoutant À la Défense d'Elisabeth.
Moi, quand j'arrive à la Défense, je vois pas la tour Elfe qui t'aime. La nouvelle arche, je m'en balance, je vois la vigne de Suresnes. Moi, quand j'arrive à la Défense, je vois couler le vin de Paris. Quand il arrose l'histoire de France d'un rouge que rien ne tarit. La Défense, ciel et sur terre, à ce qu'ils disent. Moi j'ai pas de chance, c'est à Nanterre que j'agonise. Prends Paris Ouest et puis alors, comme dans le western de mon enfance, je roule au milieu de la ruée vers l'or. Moi quand j'arrive à la Défense, je vois Paris pour la nuit parée. Et parmi les vapeurs d'essence, je vois grimper le prix du mètre carré. À la Défense, ciel et sur terre, à ce qu'ils disent. Moi j'ai pas de chance. ça fait des tas d'importance, aussi haut que la tour Montparnasse. Moi quand j'arrive à la défense, y'a pas de défense qui tienne. Allez-y mourir pour la France, votre France n'est pas la mienne. À la défense, ciel et sur terre, à ce qu'ils disent. Je vois les hospices de Nanterre. Quand on arrive à l'indécence, faudrait-il donc encore se taire? Moi quand j'arrive à la défense, j'entends une voix qui me dit: défense qui sont sans défense, et je me sens devenir un bandit. À la défense, ciel et sur terre, à ce qu'ils disent. Moi j'ai pas de chance. C'est pas elle que je défendrai, ni ces pubs où l'on nous balance le mensonge avec le pavé. Moi quand j'arrive à la défense, j'aperçois même le Sacré-Cœur posé là-haut comme une offense, au milieu des mers le moqueur. À la défense, ciel et sur terre, à ce qu'ils disent. Moi j'ai pas de chance, c'est pas le tube de l'été, pas cette chanson où l'on danse sur le ventre des affamés. Moi quand j'arrive à la défense, je sens que je vais faire le contraire. Je prendrai la vie dans le mauvais sens, j'inverserai le sens des circulaires. À la défense, si elle sera sur terre, qu'on se le dise, j'aurai de la chance.
Radio Libertaire, 89.4, c'est l'émission Et pourtant elle existe, et je repasse le micro à Raphaël.
Alors nous allons donc poursuivre cette émission en signalant quelques rendez-vous. Après, je passe la parole à Michel. Quelques salons où nous serons présents. Alors en premier, c'est très bientôt, c'est le 21 et 22 septembre, nous serons à Vendôme. Il y a eu toute une équipe du club, c'est la troisième année, je crois, ou quatrième, je ne sais plus. Troisième année que nous sommes présents là-bas. Et voilà, vous pouvez nous y rencontrer. C'est au centre-ville de Vendôme. Hein. C'est annoncé partout dans la localité. Et ceci à partir des membres du club qui sont de la région et qui sont renforcés par d'autres qui viennent d'autres régions. Mmh. Voilà, ça c'est le 21-22 septembre 2024. Ensuite, il y aura le 29 septembre, nous devrions être présents au salon anarchiste à Merlieu dans l'Aisne, et organisé par le groupe Kropotkine de la Fédération anarchiste. Le 11, 12 et 13 octobre, c'est le salon des revues, et pour la troisième année, je pense. Mm-hmm. Nous y serons présents. C'est à Paris, hein, c'est au Blanc Manteau. Et bon, là, il y a énormément de revues. Il y a toutes les revues, les plus belles aux plus exécrables. Mais il y a un espace qui nous permet d'avoir des échanges, de rencontrer des personnes et de nous faire connaître. Alors, ça c'est pour le 11, 12 et 13 octobre. Enfin, le 11 c'est en soirée, hein. C'est plutôt, comment on appelle ça, l'inauguration. J'ai oublié, non. Et c'est surtout le samedi et le dimanche. Mais les installations, c'est à partir. Il y a quand même une présence en soirée le 11. Et enfin, un rendez-vous le 21 novembre. Alors, au 54 boulevard Raspail, organisé par le salon, par Entre Revues, hein, qui organise le salon d'octobre. Et c'est une émission, c'est un rendez-vous, une rencontre autour du centenaire de Michel Ragon, organisé par la revue Fragment. Et donc, ceux qui n'ont pas pu venir au colloque, eh bien, ils pourront se rendre au 54 boulevard Raspail à 18h30. Et il y aura un certain nombre de membres de notre association, et il y aura André Derval, dont le livre est paru sur Michel Ragon aux éditions Albin Michel. Il y aura Françoise Ragon également, et une petite équipe, et tous ceux qui peuvent venir sont bien entendu les bienvenus. C'est-à-dire que ce sera une piqûre de rappel dans le prolongement de notre salon, de notre colloque, pardon. Donc je passe la parole à Michel, qui va nous parler des femmes dans la résistance.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est parce que la ville de Paris a fêté le 24 août les 80 ans de sa libération. Et donc, au musée de l'Ordre de la Libération, il y a une exposition qui s'appelle « Résistante, France 1940-1944 ». Donc, c'est une collection, en fait, de plus de 150 objets, documents, faux papiers, lettres, vêtements, armes, objets personnels, dispositifs clandestins de la résistance, souvenirs de déportation et témoignages vidéo. Donc, c'est vrai que c'est une exposition qui est assez prenante, en fait, et qui nous plonge bien dans ce climat de résistance et d'oppression de l'époque. Alors, en fait, au niveau historique, on remonte bien évidemment un peu sur les femmes dans ces années-là ou dans les années d'avant, c'était comment. Donc, la première porte, je dirais, ce sont les femmes aux portes, justement, de la cité. Donc, la société française des années 1930 connaît des dynamiques contradictoires. Trois femmes entrent au gouvernement du Front Populaire en 36 en qualité de sous-secrétaire d'État. C'est Cécile Brunschwig, Suzanne Lacor et Irène Joliot-Curie. Dans le domaine, alors voilà, c'est celles qui sont le plus connues maintenant. Dans le domaine militaire, la loi Paul Boncour de 1938 autorise les engagements de volontaires féminines, mais sans envisager, bien sûr, leur participation au combat. Enfin, la loi de février 38 met fin à l'incapacité des femmes mariées, telle que la capacité civile des femmes mariées, telle que le prévoit le code napoléonien, ça c'est en février 1938. Avant, nous étions sous le coup de l'incapacité civile. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Donc, ce sont des avancées sociales qui sont bien réelles pour les femmes, mais qui sont cependant contrecarrées par des résistantes très forte qu'opposent les législateurs. Ainsi, si la Chambre des députés a la volonté d'intégrer les femmes au domaine, au monde politique, le Sénat refuse d'en examiner la perspective. Dans les mentalités de l'époque, la place de la femme est au foyer, dont elle doit demeurer la gardienne. Et ça, au niveau politique et civil, il y a des verrous qui sont très 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 forts et très très importants là. Et au foyer, les femmes mariées demeurent sous la coupe de leur époux. La loi de février 38 conserve à l'époux toute autorité sur la famille dont il est le chef. Ainsi, il peut s'opposer au choix de la femme d'exercer une activité professionnelle et, à plus forte raison, de s'engager dans l'armée comme volontaire. Désormais majeures devant la loi, les femmes ne sont pas considérées quand même comme des individus à part entière et la cité demeure un bastion masculin. Donc on est vraiment au niveau civil, toujours aux portes de la cité. Cependant, la Grande Guerre a apporté un héritage. Entre 1914 et 1918, dans les unités d'armement, au volant des tramways, dans les hôpitaux où elles soignent les blessés, par les correspondances qu'elles entretiennent avec les soldats, les femmes assurent la solidité de l'arrière, ce qu'on appelait à l'époque l'arrière, qui est ce second front indispensable pour que la société continue à fonctionner, en fait. L'absence des hommes, donc l'Expo rappelle que 8 millions d'hommes sont appelés au front à cette époque-là, donc l'absence des hommes confère aux femmes une indépendance dans les faits qui, déjà en temps de guerre, suscite la réserve, voire la crainte. C'est-à-dire que ça ne se fait pas non plus, là, quand même, très facilement, puisque plein de gens ne voient pas d'un bon œil toutes ces femmes arriver sur ces postes-là. 1918 ferme brutalement la parenthèse de leur mobilisation et de l'affranchissement qui lui est lié. Endeuillée, traumatisée, la société renoue avec la normale, donc avec l'ordre des genres. La démobilisation des hommes exige le retour des femmes au foyer et le poids des morts exhorte à la maternité. Donc on revient dans une...
Il faut souligner aussi que ça se passe aussi à la campagne.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que il y a un livre de Marcel Capi qui s'appelle « Des hommes passèrent » et qui raconte comment c'est les femmes qui vont prendre en main toute la gestion, le travail de la ferme.
Oui, tout à fait. Et comment elles sont renvoyées brutalement à faire les repas et à faire les enfants après la guerre. Pour autant, quand même, ces expériences de guerre des femmes dans la guerre laissent des traces. En sortie de guerre, on voit un pic des divorces qui montre une évolution, voire une révolution dans la conception de couple. Parce que, bien sûr, les femmes se rendent compte qu'elles peuvent être indispensables et elles se rendent compte surtout de leur capacité à faire des choses. Voilà. Et si à l'arrière, la guerre a fait la démonstration du courage des femmes, de leur autonomie dans les territoires envahis alors par les Allemands, naissent des modèles féminins de résistance, y compris armés, à l'ennemi. Ainsi, dans l'exposition, est citée Émilienne Moreau, qui est une jeune fille de 16 ans, qui à Loos en Goële, qui est dans le Pas-de-Calais, en 1915, tire sur des Allemands, tue plusieurs d'entre eux, ce qui lui vaut immédiatement une reconnaissance nationale. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, en fait. Et l'objet de l'exposition est justement de faire ressortir ces femmes en leur donnant des noms et des histoires. Et c'est très émouvant, tous ces portraits de femmes, en fait. Donc, l'engagement des femmes dans les années tendrantes, dans l'entre-deux-guerres, les partis politiques s'ouvrent résolument aux femmes. Martin Desrumaux rentre au Parti communiste, Suzanne Buisson à la SFIO socialiste, et elles y occupent des postes de premier plan. Pour autant, l'engagement militant féminin se fait surtout au sein d'associations et de ligues très diverses par leur ancienneté et leur ancrage politique qui se retrouvent sur un mot d'ordre commun, la Française doit voter. C'est tout le début de la campagne sur le fait que de l'accès au vote des femmes. D'abord, selon les associations suffragistes, la Femme Nouvelle de Louise Weiss, l'Union Française pour le Suffrage des Femmes de Cécile Brunswick, pour lutter contre les fléaux sociaux tels que l'alcoolisme, les taudis et l'immoralité. C'est-à-dire qu'on nous donne elle lutte pour le droit de vote, mais ça a encore quand même une portée sociale très... très restreinte, je veux dire. Cet objectif de justice sociale s'ouvre sur d'autres horizons avec la recrudescence des tensions internationales dans les années 1930. Les récits des réfugiés qui fuient l'Allemagne nazie, opposants politiques ou juifs, éveillent les consciences. Pas toutes, mais enfin quand même certaines sont éveillées. S'affirment alors les associations féminines pacifistes, telle la section française du Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme qui est créée en 1934 et dont on ne parle pas très souvent. Surtout les images des bombardements de terreur pratiqués en Espagne, des femmes et des enfants morts sous les bombes dans les décombres des villes, imposent une solidarité à laquelle les femmes françaises prennent toute leur part. Par l'accueil à domicile d'enfants espagnols, comme la mise en place de colonies d'enfants, qui vont être les préfigurations du sauvetage qui sera celui des enfants juifs sous l'occupation. Donc il y a tout un réseau qui commence quand même à s'installer, dans lequel les femmes commencent à prendre une place importante. Les années 1930 voient l'apogée d'une vision traditionnelle de la société dans laquelle la famille et en son sein, la mère de famille, occupe une place majeure. Le monument aux mères françaises, je ne savais même pas que ça existait ça, le monument aux mères françaises, inauguré à Paris en 1938, doit exprimer la reconnaissance de la nation à l'égard de celles qui, par la maternité et l'abnégation, avec lequel elles élèvent parfois seules leurs enfants, sont tout à la fois les gardiennes du foyer et les protectrices de la patrie. Les années 1930. Pourtant, sous la rigidité de cette toile de fond réaffirmée alors avec force, la société évolue. Les cheveux coupés à la garçonne, le développement du sport féminin dans des disciplines longtemps réservées aux hommes, le succès de célébrités qui se jouent des stéréotypes féminins, tels Joséphine Baker, en témoignent. En 1937, avec Marie-Claire, la femme moderne, a un hebdomadaire qui lui est dédié. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait sourire, parce que ces hebdomadaires féminins c'est une catastrophe, mais c'est vrai que remis dans le contexte, c'était quand même les premiers médias qui étaient ouverts et pour les femmes. Parallèlement à ces évolutions, la condition des femmes est l'objet de débats et d'une réflexion renouvelée. Dans le Problème sexuel, qui est une revue qu'elle fonde en 1933, Bertie Albrecht défend ainsi une conception avant-gardiste de la maternité et prône le droit au plaisir féminin. Alors ça, c'est une révolution parce que jusqu'à présent, personne n'en parlait. Déjà aujourd'hui, c'est un peu difficile à faire admettre, mais alors à l'époque, on n'en parlait même pas. Hein, voilà. Dans un registre différent, Emmanuel Mounier signe en 1936, dans la jeune revue Esprit, un éditorial « La femme aussi est une personne ». 1936. Heureusement que certains nous l'ont rappelé. Hein. À la veille de la guerre, entre pesanteur, assignation de jarre et perspective d'émancipation, la condition des femmes est bel et bien en mouvement. Et dans ce mouvement, elles vont franchir les lignes.
Donc on va faire une pause, hein, comme prévu. Oui. Je rajoute par rapport à la maternité, je crois que c'est dans le bouquin de Madeleine Vivant, il y a un prix Cognac G.
Ah oui.
Pour les femmes les plus méritantes, où il y a de l'argent qui est donné. Enfin, je crois qu'on avait abordé, on en a parlé une fois, mais ça m'y fait penser.
Oui.
Donc, on va faire une petite pause musicale pour que tout le monde reprenne son souffle. C'est l'affiche rouge de Léo Ferré.
Bah oui.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
C'est l'émission Et pourtant elle existe sur Radio Libertaire 89.4. Je repasse le micro à Michel.
Donc on en était au fait que les femmes, en fait, vont franchir les lignes. Alors, on sait tous que l'engagement, qu'il soit masculin ou féminin, mais l'engagement pour tous est un choix entier. Un basculement, hein. Beaucoup de gens ont vu leur vie basculer complètement à cette époque. Mais pour les femmes, il y a une double transgression, en fait. La première contre l'ordre allemand et celui de Vichy, voilà, mais aussi contre l'ordre social des sexes. Résister au féminin, c'est donc, au propre comme au figuré, franchir des lignes. D'abord, la ligne de partage des rôles qui nie aux femmes la possibilité d'agir de manière autonome et plus encore, d'occuper des fonctions d'autorité. Ensuite, celle des champs d'action qui réservent traditionnellement la défense de la nation et le combat armé aux hommes. Enfin, celle des espaces investis, l'action des résistantes estompant ou détournant la frontière traditionnelle entre l'espace public et l'espace privé. Ce franchissement des lignes va se faire de différentes façons. Celles qui prennent les armes ou aspirent à le faire, dans la France libre ou au sein des francs-tireurs et partisans, il y en a, hein, voilà. Celles qui sont formées aux opérations les plus périlleuses, telles les agentes françaises du Spécial Opération Exécutive, qui incarnent une véritable révolution des comportements, et celle-ci, on n'en parle quasiment jamais. Cependant, la plupart des résistantes restent à la lisière de ce basculement, par le cumul de missions diverses, donc que ce soit des missions de liaison, de renseignement, de convoyage, de ravitaillement, qui caractérise une activité de moindre éclat, certes, mais tout aussi essentielle au développement de la résistance et à la reprise du combat. Ces femmes vont se retrouver pour beaucoup internées, en fait. Une population étrangère, jugée indésirable depuis 1939, telle que les communistes, cible d'une répression menée sans relâche par le régime de Vichy, résistant pourchassée par l'occupant et par Vichy, la population pénitentiaire explose entre 1940 et 1944, et parmi elles, les femmes se comptent par milliers. Le paysage de leur détention est varié, donc camp d'internement à Rieux-Croix ou à Brins, prison exclusivement féminine, la Petite Roquette à Paris, gérée par les religieuses, ou quartier réservé dans la plupart des prisons comme à Fresnes, prison d'instruction, soit les lieux de torture des résistantes et résistants. Partout, l'univers carcéral épuise les résistantes qui multiplient les stratégies pour rompre l'isolement, voire pour témoigner de leur quotidien, comme le fait France Hamelin par le biais de ses dessins exécutés à la Petite Roquette. Et là, c'est vrai que dans l'exposition, c'est assez émouvant de voir les dessins, les messages, les tenues de ces gens, les jouets qui étaient fabriqués avec des petits bouts de tissu pour les enfants qui naissaient dans les prisons. C'est très instructif, on va dire. Et le rôle des femmes important, et si elles sont autant, je dirais aussi... internés, c'est aussi, comme les hommes, bien sûr, de sauver des vies. Et là, l'exposition nous dit que plus de la moitié des justes de France sont des femmes, en fait. Qu'elles aient agi seules, en famille, au sein d'organisations de sauvetage, leur implication dans la mise à l'abri des populations juives vouées à la mort s'inscrit dans la continuité du rôle social de protection traditionnellement dévolu aux femmes, et qui nécessite aussi un franchissement des lignes. C'est-à-dire qu'elles gardent leur rôle, effectivement, de protection, mais ont le courage de l'appliquer et de l'exercer auprès de populations ciblées par les Allemands et par Vichy. Sous couvert d'une association d'aide aux mères, Juliette Vidal et Marinette Guy créent une maison d'enfants à Chamonix, prélude au passage de la frontière suisse. D'autres basculent dans la clandestinité, tels Gilbert Nissiem, Steg, alias Claire Marchand, en résistance. La solidarité, Serge Klarsfeld, qui est un historien et avocat français né à Bucarest en Roumanie, parle de la solidarité agissante des résistances qui s'exprime aussi par des pilotes alliés tombés sur le sol français. Plus d'un tiers des helpers, c'est-à-dire des aides, seront des femmes. Donc elles ont eu un rôle énorme, en fait, hein. Plus de la moitié des justes et plus d'un tiers des femmes aident les aviateurs tombés sur le sol français. Mais il y a aussi une résistance qui s'organise dans le milieu professionnel. Le réseau du Musée de l'Homme à Paris, par exemple, est exemplaire de l'opportunité que constitue le milieu professionnel pour la constitution des premiers noyaux résistants. Alors, c'est vrai que moi j'ai découvert ça, mais effectivement, j'aurais pu y penser, c'est essentiellement des historiens, des anthropologues, des sociologues, donc des gens dont le métier est justement de préserver la vie humaine et d'en faire l'étude.
Un réseau qui sera démantelé et assez rapidement.
Oui, tout à fait.
Plupart, sauf ceux qui ont échappé, évidemment, mais seront déportés.
Seront déportés et seront tués, oui. Donc ici, dans ce réseau donc, du Musée de l'Homme à Paris, se côtoient des hommes, le linguiste Boris Vildé, l'anthropologue Anatole Lewitsky, et des femmes, la bibliothécaire Yvonne Audon, l'ethnologue Germaine Tillon, dont on reparlera tout à l'heure, et la conservatrice Agnès Humbert. sur un pied d'égalité du fait de leurs études, ces gens vont mettre à profit le lien professionnel, voire amical, pour tisser les fils d'une toile résistante, lien essentiel aussi, bien sûr, à son déploiement. Aucune résistance ne serait possible sans l'implication des employés de mairie, de préfecture ou des postes, Raphaël, et sans complicité, sinon l'engagement de leur chef de bureau, le plus souvent masculin. Donc, il y a aussi un milieu militant qui est très actif. À la veille de la guerre, moins de 5% des militants du parti de gauche sont des femmes. C'est pas beaucoup, hein. Pour certaines, simples militantes telles que Lucie Aubrac ou propagandistes reconnues à l'échelle nationale, Martin Desrumaux au Parti communiste, Suzanne Buisson à la SFIO, cet engagement politique trouvera un prolongement dans la résistance. Les mouvements sociaux des années 30 ont par ailleurs affermi le caractère des ouvrières, employées, fonctionnaires, bien présentes dans les rangs des syndicats unitaires, CGTU, comme chrétiens, CFTC. En 1936, 30% des membres de la CFTC sont des femmes. Alors c'est vrai que le poids de la religion est encore important, mais bon, elles sont quand même militantes. Côté communiste, l'Union des jeunes filles de France, 1936, créée par Daniel Casanovaet et Claudine Chaumat, va constituer un formidable vivier de jeunes éduqués à la solidarité, alertés sur les dangers du nazisme et soucieuses d'engagement. Donc, il y a un exemple. Alors, vous aurez, si vous allez à cette exposition, est-ce que je vous ai dit qu'elle s'arrêtait le 15 octobre? Non, je ne suis pas très sûre de vous l'avoir dit. Jusqu'au 13 octobre, vous verrez tous ces portraits de femmes avec leur histoire et voilà. Mais il y a un exemple parmi d'autres, parce qu'elle est plus connue, qui est bien sûr Germaine Tillon. Germaine Tillon est née en Haute-Loire, dans un milieu bourgeois. Elle devient ethnologue, spécialiste des populations algériennes. On passe pas la musique ?
Oui.
À Paris, en juin 1940, elle refuse la défaite et dès octobre organise l'évasion de nombreux prisonniers de guerre avec le colonel Howet. D'accord. Son groupe est lié à celui du Musée de l'Homme, structuré majoritairement autour de professionnels des sciences humaines et auquel appartient également sa mère Émilie. Au sein de cette nébuleuse, puis après son démantèlement, elle participe à des actions de renseignement, de contre-espionnage et d'évasion. Elle est arrêtée en août 1942. Elle est déportée à Ravensbrück en octobre 1943. Elle y entreprend une étude ethnographique du système concentrationnaire et écrit une opérette, le Wefuchsbach aux enfers, donc qui est édité en livre de poche et qu'on trouve aujourd'hui très facilement, si vous voulez le lire. Et elle reviendra du camp, mais sans sa mère, qui sera gazée en mars 1945.
Alors, pour faire la transition au niveau plage musicale, on va écouter un titre qui s'intitule Anga Bansik. Alors, Anga Bansik, c'est une femme qui fait partie des FTP Moy, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, et qui fait partie du groupe Manoukian. Je fais une parenthèse, il y a un très bon livre de Didier Denax, Missiak, qui est vraiment à lire pour bien appréhender ce qu'était ce groupe.
Et il y a alors une statue au cimetière parisien de Divry sur le groupe Manoukian, dont cette jeune femme.
Mais elle, on n'en parle pas assez, à mon avis. Elle est roumaine, elle est juive, elle est communiste. Et elle avait un enfant qu'elle avait confié avant d'entrer dans le groupe et de participer aux actions de résistance. Elle avait confié à une famille française. Et bon, elle a été arrêtée évidemment avec l'ensemble des militants du groupe. Son rôle, c'était d'amener les armes ou de les faire disparaître. Et ce qu'il faut savoir, donc on va écouter ce titre. En fait, elle a été arrêtée, mais les nazis, pour bien comprendre ce que c'est le nazisme, à partir de cet exemple, ne fusillait pas les femmes. C'est-à-dire qu'elle a été déportée, transférée en Allemagne, et le 10 mai 1944, elle a été décapitée à Stuttgart. Ouais. Donc on va écouter un... D'ailleurs, ce CD est vraiment très bien, ça s'appelle Chronique de la Résistance. C'est Tony Imas. C'est vraiment bien. Il y a un titre qu'on écoute maintenant qui s'appelle Ongamansik.
Son nom de guerre était Pierrette. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Olga, ni qu'elle était juive, ni qu'elle était mariée avec Alexandre Jarre, grand responsable aussi dans le groupe des FTP-MOI, ni qu'elle avait une petite fille qui était gardée à la campagne. Pierrette était chargée du transport des armes. Les femmes qui transportaient les armes faisaient un travail beaucoup plus dangereux que ceux qui combattaient les armes à la main. Elles ne pouvaient se défendre. Le chef de groupe préparait l'action, puis conduisait ses camarades au rendez-vous. Les femmes Anna Richter, Olga Bansik, devaient à l'heure dite apporter des grenades et des revolvers. Nous en avions très peu. Puis il fallait les récupérer après l'action, ce qui les exposait terriblement. Car après le bouleversement d'un attentat, le quartier était tout de suite encerclé par la sécurité allemande, les maisons fouillées et quelquefois les rames de métro arrêtées. Les hommes qui avaient tiré s'en fuyaient immédiatement à vélo, mais Olga, qui avait attendu que les combattants aient fini leur travail, ne bougeait pas. Et elle récupérait les armes près d'un métro. Dans certains quartiers, ces actions étaient particulièrement difficiles. C'était une époque où les résistants vivaient dans la crainte d'être pris. Ils étaient sans cesse aux aguets, se méfiaient de tout. Le danger était si grand que beaucoup de camarades avaient l'impression qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout, jusqu'à la libération. Il fallait passer et repasser à travers les mailles du filet. Ils pensaient toujours qu'ils seraient pris et fusillés. Les femmes étaient les plus attentives. Elle faisait très attention. Il y avait ceux dans le groupe qui n'avaient peur de rien. Ceux dont les familles avaient été déportées, ce qui les rendait encore plus combatifs. La plupart des militants avaient dû opter pour la clandestinité, surtout les juifs qui vivaient dans des conditions terribles. Le groupe prenait des risques terribles, car les actions étaient directes. Il y en avait au moins une par jour, parfois...
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez aussi l'émission actuellement à l'antenne. Et pourtant, elle existe, une émission du CLOPS. Je repasse le micro à Raphaël.
Alors, tu as rappelé les dates de l'émission et le lieu. Tu voulais ajouter peut-être pour
oui, je voulais juste rajouter que donc il y a un catalogue de cette exposition pour les gens qui nos adhérents ou les gens intéressés qui sont pas parisiens. Le catalogue est intéressant, donc vous pouvez toujours le commander au musée. Il reprend de façon très exhaustive toute l'exposition et coûte une trentaine d'euros, ce qui est un peu moins que d'habitude, parce que les catalogues sont toujours très, très chers.
Alors, puisqu'on n'a pas vu passer le temps, là, avant d'achever cette émission, je voulais signaler, au niveau de la revue Fragments, on reçoit des ouvrages pour en faire des chroniques, ou d'autres revues, hein. Et là, je voulais signaler L'Arbre parle. C'est une revue sauvage et poétique. C'est le numéro 11, qui est d'automne 2024. Et je vous cite un ou deux textes qui sont en exergue à cet exemplaire. Hein. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas, proverbe amérindien. Et voilà, il y a des références à la culture amérindienne, et il y a des textes vraiment intéressants. C'est une revue qu'on peut se procurer, revue pas mal de poésie, mais des textes aussi, et on peut se prendre contact avec eux en écrivant à association L'Arbre Barde, hein, comme le barde, c'est 7 lieux dits La Forge, 7 lieux dits La Forge, 23 600 Saint-Marion. Voilà, c'est une revue assez éclectique et qui vaut, à mon avis, le détour. Hein, et vous pouvez, l'exemplaire est 5 euros, vous pouvez le commander ou simplement prendre contact, ou si vous avez des textes à leur proposer, je pense qu'il y aura un accueil assez sympathique. Voilà, donc je rappelle nos prochains rendez-vous. Donc on se verra après le salon des revues, hein. Donc on aura peut-être des choses à dire par rapport à ça, sans doute. On pourra peut-être, faudrait qu'on réfléchisse si on peut enregistrer pendant le salon. Il y a pas mal de gens qui viennent d'un peu partout sur de l'Hexagone, ça pourrait être intéressant. Et nous allons, parce que le temps arrive là, donc bon, on va raccourcir et on va écouter une dernière plage musicale. C'est toujours dans le CD de Tony Imatz, ça s'appelle Valse Macabre et c'est dédié à Germaine Tillion, oui, dont tu nous as parlé tout à l'heure.
Dans le noir, je regardais le ciel barbelé sans éther. Le wagon à bestiaux roulait vers l'abattoir. J'avais faim, j'avais soif, épuisé par l'enfer. Tchou 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 tchou, un train peut t'en cacher un. Des chansons de chez nous.
L'émission Et pourtant elle existe est terminée. Nous vous donnons donc rendez-vous le troisième jeudi du mois d'octobre, qui sera le 17 octobre. Et par la suite, ne quittez pas l'écoute de Radio Libertaire 89.4. D'ici quelques petites minutes, vous aurez l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. En vous souhaitant une agréable soirée et une bonne continuation d'écoute sur Radio Libertaire. Bonsoir.
Fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu dans notre émission de la semaine dernière Eitan Bronstein, un Israélien antisioniste, il dénonçait le génocide du peuple palestinien à Gaza. Le massacre dure depuis plus de 11 mois et les puissances occidentales, responsables d'ailleurs de la création de l'État d'Israël, ne prennent aucune mesure contraignante pour obliger le gouvernement israélien à arrêter les tueries. Voici d'ailleurs ce que j'ai entendu le 12 septembre 2024 sur France Inter.
Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien. Mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc, on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter.
La guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire.
Mais alors, il n'y a pas que j'entends ça en permanence. Il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que, voilà, que ce serait un chiffre comme cela, tronqué. Non. C'est une, malheureusement une réalité de tous les jours. À Gaza, les corps sont en morceaux. Les cœurs sont en morceaux. Les âmes sont en morceaux. Les têtes sont en morceaux. Et, l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza. La création d'un périmètre autour. Gaza est complètement assiégé. À un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une